La Bible et le Saint-Esprit. Cette conférence sera une déception si le titre que je lui ai donné, La Bible et le Saint-Esprit, semble annoncer un essai de formule théologique de l'inspiration. Je n'apporte pas une telle formule, parce que je ne la possède pas. De plus en plus, je suis convaincu que cette formule scientifique n'existe pas et n'existera jamais. La foi à la divinité de la Bible doit rester purement morale et résulter d'une vie passée avec la Bible, dans la Bible et conformément à la Bible. C'est là du moins ce que je constate pour moi. Si le niveau de ma vie spirituelle baisse, ma foi se voile. Si, grâce à Dieu, ce niveau remonte, ma foi devient une inébranlable certitude. Certitude qui ne supprime pas les difficultés et n'essaie pas de les nier, car ces difficultés, je les sens avec une intensité poignante. Mais cette certitude permet d'attendre que nos progrès dans la lumière les résolvent l'une après l'autre. Elle porte à dire, comme Socrate à propos des ouvrages de je ne sais plus quel philosophe, « Ce que j'en comprends est si frappant que ce m'est un gage pour ce que je ne comprends pas encore. » Ce que j'apporte ici, ce sont donc tout simplement un certain nombre d'observations générales et de faits, à mes yeux incontestables, faits et observations qui ont toujours fortifié ma foi, comme ils ont sans doute déjà nourri celle de beaucoup d'autres personnes. Ils appartiennent à cet ordre de preuves pratiques qu'invoqua Jésus lui-même, quand, par exemple, il dit aux envoyés de Jean le Baptiste « Allez et rapportez à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont nettoyés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et l'évangile est annoncé aux pauvres. » Commençons par constater un fait qui a été déjà souvent signalé. C'est la place considérable qu'occupe la parole de Dieu dans la vie de celui qui est le Seigneur Esprit, et après lui, dans celle des hommes chez qui l'œuvre de l'Esprit a été le plus intense. Dès l'âge de 12 ans, Jésus-Christ est plongé dans l'étude des saints livres. À 30 ans, baptisé du Saint-Esprit, qu'il a reçu sans mesure, il lutte dans le désert avec la seule arme de la parole de Dieu. Trois fois l'ennemi revient à la charge, et trois fois Jésus-Christ repousse ses assauts. Par un simple mais décisif, il est écrit. Et ces trois « il est écrit » visent, chose étrange, le même livre, le Deutéronome, sans souci des attaques dont il devait être l'objet un jour. Dans son ministère public, comment va débuter Jésus? Il débute en lisant Ésaïe chapitre 61, à quoi il ajoute « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Lui fait-on des questions? Comment y répond-il? Par ces mots, qu'est-il écrit? Que lis-tu? Veut-on l'embarrasser? Il est écrit, se borne-t-il à répondre. À son tour, interroge-t-il ses adversaires. Comment, dit-il, David parlant par l'Esprit, etc. A-t-il à remettre des Sadducéens à leur place? Vous ignorez les Écritures et la puissance de Dieu, affirme-t-il, et dans le livre de l'Exode, au chapitre 3e, il va leur chercher une preuve de la survivance de l'âme à laquelle nul de nous n'aurait songé. A-t-il enfin à se défendre d'une accusation de blasphème parce qu'il se déclare fils de Dieu? Il montre combien une telle accusation est étrange de la part de gens qui acceptent bien que l'Écriture appelle Dieu, Elohim, leur propre juge. Et à cette citation du psaume 82, il ajoute « Il est impossible que l'Écriture soit anéantie ». L'Écriture donc, toujours l'Écriture. Dans les quatre évangiles, on ne trouve pas moins d'une cinquantaine de citations de l'Écriture faites par Jésus-Christ. Un jour, il s'assimile à Jonas, et souvent, à propos des cinq premiers livres de la Bible, il dit « Moïse, tout court et sans hésitation ». Plus sa vie se précipite vers son tragique dénouement, plus Christ semble préoccupé d'accomplir les Écritures dans leurs moindres détails. Sur le mont des Oliviers, dans le grand enseignement eschatologique qu'il y donne, Il cite Daniel et ajoute solennellement que celui qui lit ce prophète fasse attention. Au cours du dernier repas, il faut que cette écriture soit accomplie. Celui qui mange avec moi a levé le talon contre moi. Plus tard, il cite Zacharie, chapitre 13, verset 7. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Plus tard encore, Ésaïe, chapitre 53, verset 12. Il faut que ceci aussi soit accompli. Il a été mis au rang des iniques et plus tard, dans le psaume 35, ils m'ont haï sans raison. Dans la prière sacerdotale, il fait allusion au psaume 109. Pierre veut-il en Gethsémané défendre son maître par les armes? Comment s'écrit Jésus, en le reprenant, les Écritures seraient-elles accomplies qui disent qu'il faut qu'il en soit ainsi? En Golgotha même, sur sept paroles qu'il prononce, trois sont empruntées aux Écritures et du même livre. Le Deutéronome lui avait fourni ses armes pour la lutte. Le Deutéronome, peut-être parce que c'est le livre du peuple tenté dans le désert. Sur la croix, ce sera le livre du grand persécuté, le livre des psaumes, qui lui donnera ce dont il a besoin. Le 22e, ce grand cri, « Élie, Élie !» Le 69e, son « J'ai soif !» Le 31e, enfin, le mot du dernier soupir, « Je remets mon esprit !» Mais peut-être Jésus-Christ éprouvera-t-il moins le besoin de s'appuyer sur les Écritures quand, ressuscité et déjà en voie de glorification, il sera élevé au-dessus de cette vie terrestre et des moyens de grâce qu'elle exige. Il n'en est rien. Sur le chemin d'Emmaüs, Christ n'en explique pas moins que jadis, d'après les Écritures, ce qui le concerne. Et dans la chambre haute, comme sur le chemin d'Emmaüs, et c'est enfin qu'à leur tour, ils comprennent les Écritures ainsi qu'il les comprend lui-même, que Jésus ouvre l'esprit de ses disciples, et encore, réitère-t-il son précédent témoignage, il est écrit « Descend-il au jour de la Pentecôte chez les apôtres et les autres disciples pour faire d'eux les prophètes de la Nouvelle Alliance ?» Immédiatement, le Saint-Esprit créera chez eux non seulement l'intelligence des prophètes de l'Ancienne, mais aussi le besoin de s'appuyer sur leurs témoignages. Pierre, dès son premier discours, citera Joël, citera le psaume 16 et le psaume 110. Devant le Sanhédrin, le psaume 118. Peu de jours après, Deutéronome, chapitre 18, « Je vous susciterai un autre prophète, écoutez-le. » Dans son apologie, Étienne fera tout un résumé de l'histoire d'Israël. Rempli de l'esprit, saint Paul ne lâchera pas cet Ancien Testament qu'il a interprété si longtemps en pharisien, mais il le reprendra plus tôt et l'illuminera pour son auditoire de la lumière nouvelle qu'il inonde depuis Damas. Dans ses écrits, on pourra relever des multitudes de citations de l'Ancien Testament ou des allusions, les unes et les autres, empreintes d'une confiance inébranlable. Et les autres écrits apostoliques présenteront le même phénomène, jusqu'à l'Apocalypse qui clora dignement, sous ce rapport comme sous tant d'autres, la collection des livres du Nouveau Testament. L'Apocalypse, qui est l'oméga de la Bible, rappellera entre autres étonnamment le livre de la Genèse, qui en est l'alpha. Le cercle se refermera ainsi, ou plutôt, ce ne sera pas un cercle, mais une glorieuse spirale qui, tout en revenant à son point de départ, le dépassera en hauteur de toute la distance qui sépare les nouveaux cieux de la terre primitive et la gloire spirituelle de notre nature déchue. Ainsi, tous ces hommes remplis de l'esprit, et en tête de tous l'homme-Dieu qui l'a reçu sans mesure, rendent témoignage à ce qu'ils possèdent de la Bible comme à une autorité infaillible. De plus, Jésus-Christ annonce l'achèvement futur de cette parole et fait au sien, en vue de cette œuvre, des promesses qui nous permettent de voir dans le Nouveau Testament une œuvre de l'Esprit pour le moins autant que dans l'Ancien. C'est grâce à cette action de l'Esprit que la Bible est le document exact de toutes les révélations divines. Sans la Bible, nous ne connaîtrions rien. Sans elle, serait perdue pour nous, et l'œuvre immense du Père dans la préparation de l'Ancienne Alliance, et l'œuvre du Fils au seuil de la Nouvelle, et l'œuvre de l'Esprit qui la continue et la couronne. À cette seule pensée, Un frisson d'épouvante ne nous envahit-il pas, en même temps que nous envahit un inexprimable sentiment de gratitude, en pensant qu'un tel malheur nous a été épargné? Oh, c'est à notre Bible que nous devons la connaissance et par conséquent, concurremment avec le Saint-Esprit, la possession de ces grâces qui remplissent le passé, le présent et l'éternel avenir. Gloire soit donc à notre Dieu aussi pour ce don inexprimable. Mais ce don n'a pas été sans souffrance pour le Saint-Esprit. Il y a eu là de sa part comme un dépouillement volontaire, une seconde venue en chair, une incarnation douloureuse, analogue à celle du Fils de Dieu. Représentons-nous en effet ce qu'était le langage de l'homme fini pour l'esprit infini, surtout depuis la chute, pour exprimer l'inexprimable. Quels moyens inadéquats! Plus que cela, ce langage était souillé par le péché. Les termes qui devaient dire la grandeur du vrai Dieu et les sentiments les plus purs, les plus célestes, ces termes avaient été prostitués dans la souillure du paganisme et de l'immoralité. C'est donc à propos du Saint-Esprit dans l'œuvre de la composition de la Bible que l'on peut répéter ce mot d'un cantique « Sous notre humanité, il a voilé l'éclat de sa divinité ». Et la parole d'Ésaïe « Il n'y a rien en lui, tout d'abord, à le voir, qui fasse que nous le désirions ». Pour un homme qui, apprenant qu'un livre de Dieu existe, chercherait à se représenter, avant de l'avoir lu, ce que ce livre pourra bien être, quel étonnement, peut-être, et quelle déception n'éprouverait-il pas, d'abord, en feuilletant la Bible, alors qu'il y constaterait un style non seulement très humain, mais aussi parfois très imparfait, incorrect même quant à la grammaire, et beaucoup de ce que saint Paul appelait les infirmités de la chair. La Bible, œuvre de l'Esprit, aurait donc, elle aussi, lieu de dire comme Christ, alors que Jean-Baptiste avait été momentanément ébranlé par ses apparents insuccès, « Heureux qui ne se scandalisera pas en moi ». Mais aussi comme pour Christ, quand on triomphe de cette première impression et qu'on se met à l'école de Dieu, combien peu à peu et toujours davantage se révèle sous cette forme humaine, sous cette forme de serviteur, une présence de l'Esprit qui est telle que de ce livre comme de Christ, on peut s'écrier « Nul n'a parlé comme lui, Dieu est là comme nulle part ailleurs ». Oui, l'Esprit du Dieu infini anime tout ce livre, le pénètre de son essence et le met à l'abri des atteintes du temps. La mort n'y mord. Tous les autres livres passeront, ceux-là même qui lui ont emprunté ce qu'il renferme de meilleur. Nos livres d'édification, nos recueils de cantiques, les sermonnaires, les ouvrages d'apologétique vieillissent rapidement. À eux tous survit et survivra dans sa majesté éternelle et sereine le livre des livres qui, à travers toutes les luttes où s'agitent à ses pieds partisans et adversaires de sa divinité, demeure debout au-dessus du bruit et de la fumée de ses combats de lilliputiens. Et c'est parce que l'Esprit du Dieu infini est dans ce livre qu'en dépit des vicissitudes de tant d'époques et des progrès de la révélation elle-même, il y règne une unité étonnante sur Dieu, sur l'homme, sur tous les ennemis de l'homme, sur le bien, sur le mal, sur le passé, le présent et l'avenir. Qu'il s'agisse en effet de l'homme venu de la Chaldée ou de ceux que devait voir surgir l'Occident, des hommes préhistoriques et antédiluviens ou des contemporains du Christ, partout sont décrits, au fond, les mêmes périls spirituels et recueillis les mêmes expériences, de sorte qu'interprétée par l'Esprit qui a présidé à sa rédaction, l'histoire des crimes et des chutes, des relèvements et des victoires, des vices et des vertus de ces innombrables humains nous est d'une utilité quotidienne et inexprimable. Et puisque je parle de cette histoire, je rappellerai l'impartialité divine avec laquelle elle a été écrite. Peut-on, en effet, signaler à quelque époque que ce soit une histoire qui approche de celle-là à ce point de vue, écrite avec amour, avec quelle sainteté ne l'est-elle pas aussi? Marque-t-elle une seule faiblesse de la part de ses rédacteurs, une seule tentative de pallier le mal et d'embellir ses héros? Et quant à l'histoire du peuple de Dieu lui-même, l'histoire nationale, si ce n'est pas Dieu qui a dirigé la plume de ces inconnus historiographes. Qui peuvent-ils donc avoir été, ces écrivains uniques dans les annales de notre race, ces écrivains austères autant que charitables, purs autant de toute disposition pessimiste et de critique frondeuse que de tout aveuglement, et qui ont raconté également les fautes des rois, bons et mauvais, les fautes des prêtres et des prophètes, les fautes des grands et les fautes du peuple. À quelle classe ont-ils donc appartenu? De quel corps étaient-ils membres? Et par quel miracle se fait-il que ces patriotes au cœur brûlant d'amour pour leur peuple ont tenu un langage que jamais, dans aucun autre pays et à aucune époque, n'ont tenu les chefs, les prêtres et les historiens enfants de la contrée? Non, une seule explication est possible, l'Esprit de Dieu les animait, et cet Esprit, c'est l'Esprit trois fois saint. L'Esprit saint jusque dans leurs récits d'actes impurs, et quelquefois d'actes monstrueux, car c'est là la merveille des merveilles. La Bible, sainte non seulement dans ce qu'elle dit du bien, mais aussi dans la manière dont elle nous raconte le mal, sans user des artifices de notre pruderie, d'autre part sans éveiller de sentiments impurs là où il n'en existe pas. La Bible réaliste, mais d'un réalisme qui n'a rien de commun avec celui de nos modernes Zola. Et c'est parce que la Bible sainte veut nous rendre saints et non pas savants, c'est parce qu'elle poursuit d'un bout à l'autre un but de sainteté, la seule chose nécessaire, c'est-à-dire notre salut, qu'elle laisse de côté une foule énorme de choses que les hommes auraient eu la tentation de dire. Des choses édifiantes peut-être ou intéressantes en tout cas, mais qui eussent encombré ses récits et distrait de l'essentiel. Oh, ce que dit la Bible montre bien qu'elle est de Dieu, mais non moins ce qu'elle sait taire. Ses discours sont de l'esprit, mais aussi ses silences, sa sobriété, son incroyable sobriété. Là où nous autres hommes, nous aurions fait des phrases admiratives ou indignées qui auraient promptement fatigué. Et combien n'y aurait-il pas à dire encore sur la forme, sur le style de la Bible si populaire, bien que pure de ses vulgarités et de ses mots risqués auxquels inévitablement se laissent entraîner ceux qui s'appliquent à être familiers dans leur langage. Mais il faut que j'abrège pour en venir à montrer aussi combien la Bible est la vérité parce qu'elle émane de l'esprit de vérité. Plus nous l'étudierons, et plus, en effet, plus nous aurons l'occasion d'admirer à quel point, dans toute question, c'est elle seule qui a la note juste, le mot propre, la nuance exacte entre les extrêmes et dans le juste milieu de Dieu. Prenez par exemple ce qui concerne la personne de Dieu. Selon son tempérament et son éducation, chacun de nous sera porté à rompre plus ou moins l'équilibre des perfections divines, en faisant prédominer, par exemple, l'amour sur la sainteté ou la sainteté sur l'amour, ce qui a de très graves conséquences pour un esprit logique dans les doctrines vitales telles que celles de la propitiation et de l'eschatologie. Eh bien, dites, si vous le pouvez, quelle est celle de ces perfections qui l'emporte sur l'autre dans la Bible ? Non moins inévitablement aussi, les divers mouvements religieux qui se produisent successivement au sein de l'Église parleront ou trop exclusivement du Père au détriment du Fils et du Saint-Esprit, ou du Fils en lui attribuant un rôle et une place qui effacent un peu le Père. Eh bien, prenez la Bible, après avoir lu nos cantiques, entendu nos prières et nos prédications, ou cette rupture d'harmonie dans les rôles respectifs des personnes divines et si sensibles. Prenez, dis-je, la Bible, et voyez si elle tombe jamais dans cette imperfection. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, leurs attributions, leur œuvre, tout ce qui les concerne, tant spécialement chacun d'eux que collectivement, est exposé avec une perfection d'équilibre d'autant plus frappante qu'elle est plus spontanée, plus simple, plus libre et plus pure de toute pédanterie théologique. À l'égard de l'homme, les diverses tendances de l'Église ont, sous l'influence de courants philosophiques, passé aussi d'un extrême à l'autre. Pour le corps, par exemple, en lui donnant tantôt trop peu, tantôt trop d'importance. Prenez la Bible, et dites si elle penche du côté du spiritualisme excessif de Malebranche ou du côté du matérialisme, ou si plutôt elle ne se maintient pas ici encore, dans un juste milieu admirable qui, s'il eût été mieux compris jadis, nous aurait mis peut-être à l'abri de redoutables réactions. À l'égard des deux éléments qui coopèrent dans le salut, Dieu et l'homme, même sagesse, ni l'homme n'est oublié, pour attribuer exclusivement tout à Dieu, ni surtout la grâce de Dieu n'est au moindre degré diminuée. Et le concours de l'homme n'est pas seulement réduit en intensité à sa juste mesure, mais il est aussi exposé exactement quant à sa nature même, qui est d'être essentiellement réceptif. C'est à l'infini qu'on pourrait continuer cette énumération de points importants et de points secondaires, dans lesquels la parole de Dieu garde cette mesure attribuable au seul Esprit de Dieu. Dans la morale, ni casuistique, ni vague et abstraite transcendance de principe. Dans les questions d'Église, ni esprit de clocher, ni scepticisme. Dans les questions de forme, par opposition au fond, dans celles des moyens de grâce, des sacrements, ni matérialisme sacramentel, ni indifférence à cet égard. Toujours le même juste milieu vivant, nullement compassé, ni savamment combiné, comme les distinguos des esprits subtils, déliés qui évitent bien les extrêmes, mais au prix de toute chaleur, de toute liberté et de toute vie. Dans la Bible donc, comme en Christ, l'harmonie des contraires, l'union équilibrée de toutes les vérités et de tous les éléments de la vérité. J'ai dit tout à l'heure que cette absolue vérité n'était pas acquise aux dépens de la chaleur et de la vie. C'est que, en effet, le même esprit qui anime ces pages et en fait la parole de la vérité est aussi esprit d'amour et de vie qui en fait le livre du cœur de Dieu et la parole de vie. Oh, comme le cœur de Dieu palpite dans la Bible, même dans cet Ancien Testament qui retentit des tonnerres d'Horeb. Pensez par exemple au livre des prophètes. Quelle brûlante pitié à côté de leurs fulgurantes menaces! Pensez au livre des psaumes, dont on a dit que ce que le cœur est dans le corps, le livre des psaumes l'est dans la Bible. Qui pourra jamais dire ce qu'a été et ce que sera encore pour des millions et des millions d'âmes ce seul fragment du livre saint et dans ce fragment un seul petit psaume? Oh oui, ce livre est bien ton livre, ô mon Dieu, le livre de ton cœur qui, malgré notre chute, a continué à battre pour nous. La Bible est le livre de ta sainteté, c'est aussi le livre de ta vérité, mais ce n'est pas moins le livre de tes divines compassions, c'est donc le livre de ta vie, raconté et communiqué à tes indignes serviteurs. Et c'est à cause de cela que la parole de Dieu est appelée une semence, semence incorruptible, et qui, reçue dans un cœur docile, y produit une vie de Dieu, une personnalité nouvelle qui, faible d'abord comme celle d'un enfant, doit grandir pour arriver un jour à celle de la stature de Christ, à la condition toutefois qu'on se nourrisse de cette même parole qui l'a produite et qui, l'est tout d'abord, devient plus tard de la viande et du pain, un aliment approprié aux divers degrés de son développement. Car la parole de Dieu, qui nous a engendrés de concert avec l'Esprit, est le moyen d'un développement qui doit aboutir à la perfection. C'est elle qui, selon la déclaration de saint Paul à Timothée, peut faire de l'homme de Dieu un homme accompli, un homme harmonieusement développé dans tous ses éléments constitutifs, intelligence, cœur, volonté, imagination, conscience, le sens moral, le sens pratique, le sens esthétique, même le bon sens et le tact le plus délicat, tout l'homme y trouve sa subsistance. La Bible ne favorise pas l'un de ces éléments plus que l'autre. Elle ne pousse ni à la sentimentalité, ni à l'intellectualisme. Elle ne néglige ni ne surexcite l'imagination. Elle ne fait ni des êtres trop positifs, ni des rêveurs impropres à la vie pratique. On ne peut pas davantage surprendre dans les hommes de la Bible la prédominance d'un tempérament sanguin, nerveux ou bilieux ou celui d'une race. Non, plus on l'étudiera et plus on devra dire comme Pilate de Jésus « Voici l'homme ». De là peuvent sortir des hommes complets qui reproduiront toujours davantage le type divin de l'homme, c'est-à-dire l'image même de Dieu. Mais à une condition, qui sera que l'homme se nourrisse de toute la Bible, car toute la vérité est seule la vérité. Et pour que ce développement harmonieux dans lequel entre, à des degrés divers, de la doctrine et des préceptes de morale, de l'histoire et de la poésie, et toute cette richesse de matériaux qui font de la Bible un consommé de toutes les substances les plus nutritives puisse se produire, il faudra se nourrir de toute la Bible, sans y trier au gré des fantaisies d'un gourmet blasé. Surtout, ou par-dessus tout, il ne faudra pas délaisser plus ou moins la Bible au nom d'une œuvre plus directe et plus intime de l'esprit qui nous la rendrait superflue. Tel a été le piège dans lequel, de tout temps, Satan a tenté de faire tomber d'imprudents enfants de Dieu. Pour s'être laissé éblouir par d'incontestables grâces déjà reçues et enivrés par l'orgueil spirituel qui est le vertige des grands sommets, ils en sont venus à se croire supérieurs à la Bible qu'ils ont appelée dédaigneusement la lettre par opposition à ce qu'ils nommaient l'esprit. Et dès lors, affranchis de cette tutelle salutaire, ils se sont fiés à de soi-disant révélations immédiates qui les ont égarés. Pour les punir de cet orgueil et pour avertir l'Église menacée, le Seigneur les a livrés à un esprit d'aveuglement qui est souvent venu d'un esprit de licence effrénée. Eux qui avaient commencé par l'esprit ont fini par la chair, et dans le temps où ils pensaient être des anges, ils ont fait la bête, et quelle bête, selon le rude mot bien connu de Pascal. Ainsi ont été compromis des mouvements religieux et des réveils qui avaient inspiré d'abord les plus belles espérances. D'une foi quintessentiée, on est tombé dans les plus folles aberrations, sinon même dans des souillures qui ont dégoûté longtemps de tout ce qui s'appelle l'esprit et l'œuvre de l'esprit. Et c'est précisément ce que cherchait le diable, car de tout temps, par la crainte de la fausse monnaie, il a voulu faire prohiber la bonne. De telles leçons ont coûté trop à l'Église pour qu'elles ne soient pas précieusement recueillies, sans que nous allions jusqu'à renier le moindre monde, notre foi dans l'œuvre et les directions du Saint-Esprit. Gardons-nous d'oublier jamais que la Bible sera toujours plus spirituelle que les plus spirituels. Quelle que puisse devenir ici-bas, et grâce à la Bible, notre degré de science, d'expérience ou de sainteté, rappelons-nous qu'elle en saura et qu'elle sera toujours plus que nous. Autant et plus que la nature, la Bible est un monde qui a toujours de nouveaux secrets à livrer. Mais si elle est un trésor inépuisable de science et un inépuisable accumulateur de vie spirituelle, elle est aussi, et elle doit rester jusqu'au bout, une pierre de touche infaillible, un balancier qui, s'il gêne quelquefois, n'en fait pas moins notre sûreté, et enfin, un fil d'Ariane indispensable dans le labyrinthe des opinions contemporaines. Ne tannez carte ni à droite ni à gauche. Ce solennel avertissement de l'Éternel à Josué est plus que jamais opportun. Opportun précisément parce que, grâce à Dieu, l'Église, sur plus d'un point, s'est réveillée et se transforme. Or, ce n'est pas quand le calme plat règne sur l'océan et que les voiles retombent inertes le long des mâts, c'est plutôt quand un bon vent imprime de nouveau en mouvement au navire que le pilote doit être le plus attentif à la barre et le capitaine à son livre de bord afin d'éviter les écueils. À ce réjouissant motif d'un redoublement de vigilance, vient s'en ajouter un autre plus sérieux encore. Évidemment, les événements se précipitent, et nous sommes peut-être en pleine élaboration de l'antichristianisme, l'ère des erreurs efficaces, annoncée par Jésus-Christ et par les apôtres, me paraît être déjà ouverte, car je ne saurais imaginer une contrefaçon plus parfaite de l'Évangile que le néolibéralisme actuel. Poison subtil qui, dans nos pays et sous l'influence de docteurs humainement irréprochables, qui sont souvent leurs premières victimes, s'insinue dans les veines d'innombrables troupeaux. L'air que nous respirons est chargé de miasmes, les confusions, les malentendus, les mélanges de vrai et de faux, les séductions abondent. L'heure vient, si elle n'a déjà sonné, où l'ennemi essaiera d'avoir raison même des élus, si cela est possible. Eh bien, quelle sera notre sauvegarde, notre unique sauvegarde, dans une époque de plus en plus périlleuse? Ce sera de suivre l'agneau où qu'il aille, et de le suivre fidèle à l'esprit autant qu'à la parole de Dieu, à la parole de Dieu autant qu'à l'esprit. Parce que tu as gardé ma parole, la parole de ma patience, et que tu n'as pas renié mon nom, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui doit venir sur la terre. Voici, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que nul ne ravisse ta couronne.